3. Monsieur Horace Holmcroft à Mademoiselle Grace Roseberry. Chère Mademoiselle Roseberry, veuillez excuser mon long silence. J'ai attendu d'un courrier à l'autre dans l'espoir d'être plus à même de vous envoyer quelques bonnes nouvelles. Hélas, c'était une attente inutile. Mes plus mauvais pressentiments se sont réalisés. Mon devoir est pénible car il m'oblige à vous écrire une lettre qui vous causera autant de surprise que d'indignation. Laissez-moi vous raconter les événements dans leur ordre tels qu'ils se sont produits. De cette façon, je saurai peut-être préparer votre esprit à ce qui va suivre. Environ 3 semaines après la date de ma dernière lettre, Julian Gray paya la peine de son audacieuse témérité. Je n'entends pas dire qu'il ait souffert d'aucune violence des gens parmi lesquels il avait voulu vivre. Au contraire, il avait réussi, si incroyable que cela puisse paraître, à produire une impression favorable sur les coquins qui l'entouraient. D'après ce que j'ai pu apprendre, ils commencèrent à respecter son courage, qui le faisait s'aventurer seul au milieu d'eux, et ils finirent par être persuadés qu'ils prenaient un intérêt sincère à leur amélioration et à leur bien-être. Mais il est devenu victime de l'autre péril indiqué dans ma dernière lettre, la maladie. Peu de temps après qu'il eut commencé son œuvre dans le quartier, la fièvre éclata. Nous apprîmes que Julian avait été frappé par l'épidémie, trop tard pour l'emmener hors du logement qu'il occupait dans le voisinage. Je fis personnellement des recherches au moment où la nouvelle nous arriva. Le docteur qui le soignait n'entendait point répondre de sa vie. Dans ces circonstances alarmantes, la pauvre Lady Janet, impétueuse et déraisonnable comme toujours, voulut quitter son hôtel et établir sa résidence auprès de son neveu. Comme il était impossible de la convaincre de la folie qu'il y avait à déserter à son âge sa maison et son confort ordinaire, je pensai qu'il était de mon devoir de l'accompagner. Nous trouvâmes un semblant de logement dans une auberge sur le bord de la rivière. Cette maison était surtout fréquentée par des capitaines de la marine marchande et des commis voyageurs. Je pris sur moi de me procurer l'aide des meilleurs médecins, les préjugés de Lady Janet contre les médecins l'obligeant à s'en remettre entièrement à moi sur ce point. À quoi bon vous fatiguer par les détails inutiles au sujet de la maladie de Julian? La fièvre poursuivit son cours ordinaire avec des alternatives menaçantes de délire et d'épuisement qui se succédaient. Les événements postérieurs, qu'il est malheureusement nécessaire de vous apprendre, ne me laissent pas le loisir de m'arrêter sur le mal du pauvre garçon. Dans la plupart des cas, les divagations des malheureux atteints de cette fièvre sont, à ce qu'il paraît, très diverses. Dans le cas de Julian, elle n'avait qu'un objet, il parlait incessamment de Mercy Mary, suppliant sans cesse les médecins qu'on voulût bien la chercher et l'amener près de lui. Nuit et jour, cette idée occupait uniquement son esprit, ce nom seul était sur ses lèvres. Naturellement, les médecins me firent des questions sur cette personne absente. Je fus obligé, en confidence, de leur raconter nettement les choses. Le médecin éminent que j'avais appelé pour diriger le traitement se conduisit à merveille. Bien qu'il fût sorti des plus basses classes du peuple, il avait, chose rare, les instincts d'un gentilhomme. Il comprit très bien notre pénible situation et l'importance qu'il y avait à ne point fournir à une personne comme Mercy Mary cette occasion de s'introduire au chevet du malade. Une prescription calmante, suivant lui, était la seule chose nécessaire au malade. Le médecin de la localité, au contraire, un jeune homme, évidemment un rouge et ardent radical, se montra fort entêté et même tout à fait malhonnête. « Je n'ai rien à voir à la moralité de cette dame et à l'opinion que vous avez d'elle, me dit-il. J'ai seulement à vous montrer les moyens les plus probables de sauver la vie du malade. Les ressources de notre art sont épuisées. Envoyez chercher Mercy Mary, n'importe ce qu'elle est ou qui elle est. Il y a chance, surtout si c'est une personne raisonnable et une bonne garde-malade, qu'il puisse vous étonner tous en la reconnaissant. » Dans ce cas seulement, sa guérison est possible. Si vous persistez à repousser ses demandes et si vous laissez le délire continuer pendant 24 heures encore, c'est un homme mort. Lady Janet était malheureusement présente quand cette opinion impudente nous fut exprimée au chevet du malade. Ai-je besoin de vous dire la suite? appelé à choisir entre la voie indiquée par un médecin qui se fait 10 000 livres par an, qui est certainement le premier médecin à Nobly en Angleterre, et la vie donnée par un petit praticien obscur d'un quartier perdu de Londres qui ne gagne rien, ai-je besoin de vous informer quelle fut la décision de sa seigneurie ? Vous la connaissez et vous ne comprendrez que trop bien que son premier soin fut de rendre une troisième visite au refuge. 2 heures plus tard, je vous donne ma parole d'honneur que je n'exagère rien, Mercy Merrick était établie au chevet de Julianne. Son service ne pouvait plus lui permettre de s'abandonner à aucun scrupule personnel quand une autorité médicale avait déclaré qu'elle pouvait seule sauver la vie du malade. Vous ne serez pas étonné d'apprendre que je m'éloignais du lieu de cette scène. Le premier médecin suivit mon exemple après avoir écrit sa prescription calmante et avoir été grossièrement insulté par le petit praticien de la localité qui refusait d'en faire usage. Je partis dans la voiture du médecin. Il me parla avec beaucoup de sentiments et de convenances. Sans donner aucune opinion positive, je pus voir qu'il avait perdu tout espoir du rétablissement de Julianne. « Nous sommes dans les mains de la Providence, monsieur Holmcroft. » Ce furent ses derniers mots quand il me déposa à la porte de la maison de ma mère. Je me sens à peine le cœur de continuer. Si je suivais mon sentiment, je ne serais que trop disposé à m'arrêter ici. Laissez-moi du moins hâter le dénouement. Au bout de 2 ou 3 jours, je reçus la première nouvelle du malade et de sa garde. Lady Janet m'apprit qu'il l'avait reconnue. C'était le commencement, je me sentis préparé pour ce qui allait suivre. Le rapport suivant annonça qu'il reprenait des forces puisqu'il était hors de danger. Là-dessus, Lady Janet retourna chez elle. J'y suis allée il y a 8 jours et j'ai appris que Julianne avait été emmenée au bord de la mer. J'y suis retournée hier et j'ai reçu les derniers renseignements de la bouche même de sa seigneurie. Ma plume se refuse presque à les écrire. Merci, Merrick a consenti à l'épouser. Un outrage à la société, voilà comment ma mère et mes sœurs envisagent cette chose incroyable. Voilà comment vous l'envisagerez vous-même. Ma mère a effacé de sa main le nom de Julianne de sa liste d'invitation. Les domestiques ont ordre, s'ils osaient se présenter, de répondre « Madame n'y est pas ». Je ne suis malheureusement que trop sûr d'être exact en vous affirmant que cette méprisable union est comme un fait accompli. Lady Janet a été jusqu'à me montrer les lettres, une de Julianne, l'autre de cette femme elle-même. Voyez-vous cela, Mercy Merrick est en correspondance avec Lady Janet Roy. S'adressant à elle en ces termes, « Ma chère Lady Janet, et signant votre affectionnée, je n'ai pas eu la patience de finir aucune de ces 2 lettres. Le ton de Julianne est celui d'un socialiste. Dans mon opinion, son évêque devrait en être informé. » Quant à Mercy, elle joue son rôle tout aussi habilement avec la plume qu'elle le jouait avec ses mines, ses poses savantes et ses larmes. « Je ne puis me dissimuler à moi-même combien j'ai tort en ses dents, » écrit-elle. « De tristes pressentiments remplissent mon esprit quand je songe à l'avenir. Je sens que le premier regard de mépris jeté sur mon mari pourra détruire mon bonheur, n'en fût-il pas troublé lui-même. » Tant que j'ai été séparée de lui, j'ai pu maîtriser ma propre faiblesse. Je pouvais accepter mon sort cruel. Mais comment puis-je lui résister après avoir veillé pendant 2 semaines à son chevet, après avoir vu son premier sourire, après avoir entendu ses premières paroles de gratitude, tandis que je le ramenais doucement à la vie? Voilà le ton dont elle se sert durant 4 pages d'écriture serrée, d'une humilité nauséabonde et d'un sentiment à effet. Cela suffirait pour faire mépriser les femmes. Dieu merci, j'ai le contraste sous les yeux pour me rappeler ce qui est dû à quelques femmes bien nées. Je sais que ma mère et mes sœurs me sont doublement chères à présent. Puis-je ajouter au nombre de mes consolations et de mes reconnaissances le privilège de correspondre avec vous? Adieu, quant à présent. Je suis trop rudement secouée dans mes convictions les plus chères, je suis trop abattue et trop découragée pour en écrire davantage. Tous mes souhaits pour vous, chère mademoiselle Rosemary, jusqu'à ce que nous puissions nous revoir. Votre très dévoué, Horace Holmcroft.